3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel.
7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre.
9 pour les hommes mortels destinés au trépas.
1 pour le seigneur ténébreux sur son sombre trône.
Dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres.
1 anneau pour les gouverner tous, 1 anneau pour les trouver.
1 anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres.
Club JDR est un podcast de live play ou actuel play de jeux de rôle. Vous pouvez nous écouter, moi et ma table de jeu, jouer à des scénarios de l'Appel de Cthulhu ou encore de l'Anneau Unique. Si vous avez l'envie d'écouter des parties de jeux de rôle, peut-être parce que vous êtes vous-même un meneur de jeu ou bien parce que vous n'avez pas l'occasion de jouer vous-même, parce qu'il n'y a pas de table près de chez vous, vous n'aimez pas jouer en ligne, écoutez Club JDR vous permettra de participer à ma table de jeu à travers vos écouteurs. Vous nous trouverez sur iTunes et sur d'autres agrégateurs de podcasts sous le nom Club JDR.
Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek. Pour les lieux. En avant.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls, le podcast, une spéciale comics aujourd'hui.
Désolé.
Avec, vous l'entendez rigoler, Dragor. Bonjour Dragor, comment
oui,
vas-tu?
Je suis là. Je vais très bien, je suis Hilar.
Tu ne t'appelles plus Dragor, tu t'appelles Hilar. Bref.
Si tu veux.
Et nous avons également Pauline. Bonjour Pauline, ça va?
Bon, ça va.
Bon, et t'es-tu donc Hilar toi aussi?
Oui, mais je suis plus discrète.
Ah, cool. Donc nous avons affaire à Hilar et discrète. Je sais pas du tout où je vais avec cette blague, elle est toute pourrie, j'arrête de suite. Alors, on a eu du mal à démarrer cette émission, ça fait une demi-heure parce que Discord avait des soucis, il a fallu qu'on passe sous Hangout, et puis on a eu des problèmes de webcam, et puis on a eu des problèmes de micro. Donc voilà, sachez toutes et tous que nous sommes un petit peu tendus.
Mais je me suis dit, il faut surtout pas rigoler, donc
voilà, c'est le truc, c'est le jeu. Qui c'est qui souffle dans son micro?
C'est pas moi.
Je sais pas.
Bon,
bah,
peut-être moi, mais j'en sais rien.
Oui.
J'ai pas changé mon micro de place par rapport à d'habitude, donc.
Alors faites très
c'est
attention.
C'est pas moi que je t'ai entendu.
Bah, bon, allez. Oh, le démarrage de l'enfer. Alors, pour la petite info, on est lundi soir, il est 21h30, et à 2h dans cette nuit de lundi à mardi, eh ben, j'enregistre en live sur Facebook avec Parlons Trek les reviews pour le premier épisode de la saison 2 de Discovery. Donc ça va être une très longue soirée pour moi, une très longue nuit, et je suis déjà fatigué. Petit tour de table, comment ça va? Est-ce que vous voulez parler de quelque chose avant de parler de... Est-ce que... Pardon.
Là, c'est pas moi qui rigole pour rien cette fois-ci.
Ah,
que...
oh, c'est ridicule. Est-ce que vous voulez parler de quelque chose d'autre que Star Trek?
Non, je pense qu'on va limiter les dégâts et on va s'en tenir au sujet.
Oh là 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 là, quelle honte. Si, j'avance. Non, alors moi si, non. On va parler de suite de comics Star Trek, mais juste avant. Je voudrais juste, parce que je sais que vous l'avez vu tous les deux, parler de la troisième partie de Godzilla, l'anime qui est disponible sur Netflix, que je crois qu'on a vu tous les trois.
Oui, je l'ai vu.
C'était pas bien.
Hein. Non, mais alors je suis non. Pas. Le seul truc que t'as aimé, toi, Rémi, dans le 3, c'est le truc le plus, pour moi, c'est le truc le plus pourri du film.
Non, mais en fait...
oui, quand même.
Quand tu m'as dit... Quand tu m'as dit que tu n'avais pas aimé, vu que je me suis endormi 4 fois quand même, il a fallu que je m'y reprenne à 5 fois pour le voir, j'ai revu mon jugement. Et en effet, comme tu disais, on nous tease plein de trucs et tout, ça va être trop cool. En fait, c'est très décevant. Et surtout, ouais, c'est quoi cette morale à deux balles, la façon pour vivre heureux, vivons cachés.
Ah mais puis non, puis là, la morale du bon sauvage, moi, elle me saoule.
Ouais, voilà.
Enfin, c'est genre, oui, on va vivre sans technologie ni rien, on va mourir jeune de maladie, les femmes mourront en couche, les enfants mourront en bas âge, mais on s'en fout. On sera des bons sauvages, loin
et
de la
plus,
technologie.
On aura mauvaise haleine parce qu'on n'a pas de dentifrice.
On aura pas
de froid. Et de la corde
le pire,
sous
c'est
le
que si tu regardes le peuple, il n'y a que des jeunes.
Et ouais.
Donc ça confirme ce que dit Pauline, c'est-à-dire que les gens dans ce peuple, ils doivent faire des enfants à 12 ans.
Ouais, par là.
Et les enfants meurent de mortalité infantile, et puis à 25 ans, ils sont morts de vieillesse, quoi.
Voilà, donc, c'est le monde, c'est l'épisode Miri de Star Trek.
Bah pas loin, ouais.
Et voilà, on a réussi à faire un lien.
Du coup, ça donne pas spécialement envie de vivre comme eux, quoi. C'est pour ça que la morale de fin elle tombe un peu à plat, je trouve.
Oui.
Et pour vivre en slip dans la forêt, en plus.
Un peu slip. Vive le peu slip. En plus, ils se mettent tout le temps à poil, les meufs. Là, je sais pas s'il y a un côté un peu pédophile dans ce. Enfin, bon, bref.
Oui, oui, mais je suis d'accord. Et surtout, en fait, mais ça doit être aussi le côté, comme ce que disait Dragon, elles font des enfants. Enfin, c'est un peuple qui a une durée, enfin, qui a une durée de vie assez courte. Donc du coup, les gens sont fertiles assez tôt. Je pense que ça doit être ça. Mais ça reste quand même... c'est oui, non, genre les deux gamines, moi je leur aurais mis 14 ans.
Oui.
Alors l'autre...
Oui. Grand max. Hein, bien... grand max.
Oui, voilà. Bah oui, mais oui. L'autre qui... Enfin,
bref. Bref. Ouais, allez, aujourd'hui, voilà, allez. On s'est retrouvés tous les trois pour parler de Star Trek en comics. Je sais pas, ça doit être la 6e, 7e émission. Donc on commence à être rodés, les auditeuristes également. Qui veut commencer ?
Eh ben, moi je veux bien me dévouer.
Oui.
Comme ça on fera la partie longue et chiante d'abord,
voilà.
Et puis après vous parlerez des trucs intéressants.
Voilà, donc les auditrices le savent, il faut passer 45 minutes et puis c'est bon, vous avez une émission normale.
Allez, je me vends super bien, je donne tellement envie de m'écouter.
Allez, vas-y Dragor, on t'écoute.
Donc, moi, je vais parler de la série de comics Assignment Earth, qui est sortie chez IDW de mai à septembre 2008, qui a été écrite et dessinée par John Byrne. Je pense que je le prononce mal.
John Byrne.
Et colorisée par Tom Smith. Avec au lettrage Robbie Robbins, Chris Maury et Chris Real. Alors John Byrne, c'est un nom qui me dit vaguement quelque chose, mais
alors,
je pense qu'il a fait des choses sur les Alien Spotlight, mais dont je n'ai pas parlé.
John Byrne, il a...
Sur les Romuliens, je crois.
John Byrne, il a fait la série Dr. McCoy, Frontier Doctor.
Ah oui.
Et en fait, John Byrne, c'est une superstar du monde du comics. Il a fait, il a écrit Man of Steel. Il a écrit sur du Spider-Man également, sur du Batman. Et tout ce qu'il a fait, il a fait Doom Patrol. J'en ai parlé dans l'émission en VF. Il a fait beaucoup de choses et c'est quelqu'un de très très réputé et de très. Enfin, moi j'aime beaucoup John Byrne. Je le trouve très doué. Voilà.
D'accord, d'accord. Ah oui, je vois, oui, j'ai pas eu le temps de me renseigner trop sur lui. Mais ben merci, heureusement que t'es là.
Hey, c'est Star Trek pour les nuls, mon poulet.
Et donc, il y a 5 numéros. Alors avant d'en parler plus avant, il faut que je suis obligé de parler de d'où ça vient. Alors en fait, Assignment Earth. C'est le dernier épisode de la saison 2 de la série originale de Star Trek. Et c'est aussi une série que voulait faire Gene Roddenberry, donc le créateur de Star Trek. Il a écrit le script d'un pilote pour cette série en novembre 1966, donc seulement quelques mois après le début de la diffusion de la série originale. Donc c'est un projet de longue date. Qui est resté plus ou moins en suspens justement pendant la diffusion de la série originale. Et en fait, en 1967, ça devenait de plus en plus clair que que la série originale allait être annulée à la fin de la fin de la deuxième saison. Et du coup, Gene Roddenberry, il a lancé l'idée d'en faire un spin-off de Star Trek, de cette série Ascendant Earth qu'il avait en projet. Et donc pour ça, c'est pour ça que le dernier épisode de la saison 2 de la série originale, en fait, c'est censé être le passage de relais vers cet éventuel spin-off avant l'annulation de la série. Sauf que du coup, la série originale n'a pas été annulée grâce à l'action des fans. Parce que pour les gens, je crois pas qu'on en ait parlé dans ce podcast, mais
non, jamais.
En fait, quand les fans ont appris que Star Trek allait être annulé, ils sont coordonnés et ils ont envoyé des milliers de courriers à Desilu, il me semble, enfin au studio quoi. Ils ont inondé les studios de courriers réclamant qu'il y ait une saison 3 de Star Trek.
C'est incroyable ça.
Et sous la pression, les studios ont financé la troisième saison. Ce qui fait que la série a pas trop eu l'occasion de se lancer et le spin-off, vu qu'il y avait la troisième saison à faire. Et puis après, il y a eu d'autres choses, je vais pas développer. C'est déjà intéressant de savoir que, en fait, cet épisode, il fait bizarre parce que la série originale, l'équipage de l'Enterprise est très en retrait, justement. Pour les gens qui savent pas que c'était un pilote, ça fait un peu bizarre. Il a pas été très marquant dans l'histoire de Star Trek. Mais il y a pas mal de notions qui sont qui ont influencé pas mal d'autres choses plus tard. Donc l'idée c'est que il y a Gary Sevens, un humain qui a été enlevé par dont les ancêtres ont été enlevés par les extraterrestres il y a environ 3000 ans et qui a été entraîné spécialement pour être une sorte d'agent secret infiltré sur Terre. C'est des extraterrestres qui combattent une autre espèce qui s'appelle, voilà, j'ai ouvert trop d'onglets, les Omégans, qui veulent avec laquelle ils sont dans une sorte de guerre temporelle et qui essayent de provoquer la fin de l'humanité de manière plus ou moins discrète.
Est-ce qu'ils ont froid aux doigts, les Omégans?
Omégans, oh là là,
aux mémoufles. Pardon.
D'accord. Ça, c'était l'idée du pilote. Ce qui en est resté dans l'épisode, c'est que l'Enterprise a remonté dans le temps pour étudier l'histoire de la Terre, en fait, des recherches historiques. Ça se faisait au 23e siècle de faire des voyages temporels pour ça. Et ils interceptent une téléportation de Gary Seven, donc l'agent. Qui est mis en place par ces aliens sur Terre. Alors la différence par rapport à ce qui était prévu au départ pour la série, c'est que Gary Seven ne combat pas d'espèces extraterrestres, il est juste là pour empêcher l'humanité de s'autodétruire. Qu'ils n'ont pas trop de directives premières temporelles, c'est cette espèce dont on ne connaît pas le nom, qui l'a élevé, mais le reste c'est à peu près la similaire. Et même si l'épisode n'a pas eu beaucoup de succès parmi les fans de Star Trek, il a quand même été inspiré pas mal de choses dans l'univers étendu. Il y a plusieurs romans qui en parlent, dont au moins un, voire plus, qui lui sont entièrement consacrés. Et il y a la série de comics dont je vais parler, en fait, qui est censée... Alors je sais pas combien de numéros étaient prévus, je pense pas qu'il y en avait 5 de prévus d'entrée. Mais l'idée c'était de faire justement le spin-off qui aurait dû se faire en série télé, de le faire en bande dessinée. Et donc c'est des histoires d'espionnage, en gros c'est un mélange de science-fiction et d'espionnage.
D'accord.
Alors la chose à noter avec, c'est que donc cet agent qui s'appelle Gary Seven, il utilise un petit objet. Qui ressemble à une sorte de gros stylo qui s'allume au bout et qui peut notamment ouvrir, verrouiller des portes ou déverrouiller des portes, désactiver des champs de force.
Ça me rappelle quelque chose.
Voilà, exactement. Et alors, c'est ça qui est drôle, c'est que l'épisode est sorti en mars 1968.
Et le premier épisode de Doctor Who?
En fait, il a été diffusé en. Alors, il y a. Non, le premier épisode de Doctor Who, ça faisait longtemps qu'il était sorti, mais le tournevis Sonic n'était pas encore apparu dans la série. Et en fait, il est apparu dans l'épisode Fury from the Deep, qui a été diffusé en plusieurs parties, en 6 parties, du 16 mars au 20 avril 1968. Et ça fait partie des épisodes perdus. Donc, ça va être difficile de dire à quel moment le tournevis Sonic apparaît exactement dedans. Mais c'est marrant parce que voilà, c'est dans la même, vraiment dans la même période temporelle, quoi.
Et comme quoi,
Donc
ça
lequel a inspiré
confirme,
l'autre?
oui, voilà, une fois de plus, ce que tu nous as dit à plusieurs reprises, comme quoi les deux séries se croisaient et s'influençaient l'une l'autre.
Ouais, exactement. Ouais, ça fait partie des liens justement entre les deux séries qui sont assez marquants parce que là, c'est vraiment, on est à un mois après, on est du, c'est pareil quoi. Et donc dans Accident Earth, ça s'appelle pas un tournevis sonique, ça s'appelle un cerveau moteur. Ou c'est souvent dit cerveau tout court. D'ailleurs, je me demande si cerveau moteur, c'est pas juste une histoire de traduction. Mais bon, voilà. C'était assez marrant à noter.
Ok. Et
Alors,
niveau
si tu veux,
dessin.
j'avais l'impression d'avoir plein de trucs à dire, et puis en fait.
En fait, voilà, c'est fini.
Ah mais oui, ça y est, je sais. Non mais j'oublie l'essentiel. C'est que en fait cette idée de faire une série de SF. Alors je connais pas je sais pas s'il y a un terme franco-français pour dire l'équivalent, mais en anglais on parle de down to ground. C'est-à-dire c'est toute la science-fiction qui se passe au sol sur Terre. Bah, typiquement X-Files. C'est
D'accord.
ça. Et Accident Earth, ça devait être ce style-là. Enfin, pas le style d'X-Files, mais le style science-fiction qui se passe
Ouais, sur
sur
Terre,
Terre.
ça c'est une économie de budget décor très pratique.
Ouais, tout à fait. Et cette idée-là, en fait, où il y a justement deux espèces extraterrestres qui s'affrontent en ayant la Terre comme terrain, mais de manière discrète, et ben ça sera ressorti plus tard. Alors, je pense que Gene Roddenberry avait commencé à noter des idées pour modifier en fait son idée de départ sur Accident Earth. Mais après sa mort, sa femme, donc Majel Barrett Roddenberry, va sortir une série basée donc sur une idée de Gene Roddenberry qui s'appelle Earth Final Conflict, qui sera en quelque sorte une version très modifiée de la série Accident Earth.
J'en ai jamais entendu parler de cette série.
Moi, un tout petit peu, ça fait partie des. Parce que, y avait Andromeda qui avait sorti ça, elle a fait deux, trois trucs, mais j'aime arrêter. Mais je sais pas s'il y a eu
Il faut
beaucoup
savoir
de.
que, oui, bah, je pense qu'elle n'a pas trop eu de succès, hein, à mon avis.
Alors, est-ce que tu peux juste répéter le nom?
Earth Final Conflict.
Earth Final Conflict. Ok, mais je chercherai un peu d'infos là-dessus. Et Andromeda, Pauline, est-ce que tu peux m'en parler un peu?
Oui, Andromeda, c'est une série avec dans le cast Kevin Sorbo qui est connu pour avoir joué dans la série Hercule. Andromeda, c'est une série de space opéra qui se passe dans un univers. En anglais, c'est Gene Roddenberry Andromeda, je crois, le titre de la série. Et c'est un matériel que Majel Barrett a réutilisé que son mari avait, je pense que ça devait être dans ses papiers, et qui a réutilisé et a produit. Mais le lien s'arrête là. Je crois que moi j'avais commencé à la regarder, mais je n'avais pas trouvé de VO, donc je m'étais un peu arrêtée. Je crois qu'elle est un petit peu kitsch.
Et c'est
Mais
qu'est-ce que c'est?
elle date des années 2000, je crois, aux alentours à peu près. Andromeda, c'est le nom d'un vaisseau avec une IA qui s'appelle Andromeda. Et je crois que le capitaine. On suit les aventures du capitaine et du vaisseau et d'autres personnages autour. Mais j'en sais pas plus parce que je me suis vraiment pas beaucoup, beaucoup penchée dessus.
Ok, non, parce que j'allais faire un lien de plus entre les sagas de jeux Mass Effect et Star Trek à cause de Mass Effect Andromeda. Mais c'était juste, j'ai sauté sur une occasion, mais c'est raté. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Dragor, vas-y, donc, continue.
Oui. Donc c'est quand même une série, c'est quand même une idée qui aura fait son chemin quoi par la suite. Même l'idée que Gary Seven ait été enlevé par des extraterrestres dans le passé lointain de la Terre et que son peuple, que ses ancêtres aient été enlevés il y a longtemps sur Terre pour être élevés sur une autre planète et puis utilisés comme agents à renvoyer sur Terre, c'est quelque chose qui je dis ça comme ça, mais moi ça me fait un peu penser à Stargate, où les humains ont été enlevés à l'époque de l'ancienne Égypte et ont été disséminés un peu partout dans la galaxie par des extraterrestres. C'est intéressant parce que c'est un procédé qui justifie c'est qu'à certaines planètes dans Star Trek, particulièrement dans la série originale, justement, où on voit des humains, on ne sait pas trop comment ils sont arrivés là. Bah, c'est une des explications possibles qui est fournie par cet épisode, du coup. Et dernier point, dans les choses que cet épisode a inspiré, parce qu'il en a inspiré pas mal, mine de rien, donc Gary Seven, il est accompagné par un chat noir qui s'appelle Isis et qui est en fait une métamorphe qui a une apparence à peu près humaine. Et cette idée-là, de l'aveu même de Gary Anderson, ça a inspiré le personnage de Maya dans la saison 2 de Cosmos 1999, qui est un personnage, une femme qui peut se changer qui peut prendre l'apparence de divers animaux.
Notamment des abeilles. Maya, abeille, oh. Voilà. Il fallait la faire. Je suis désolé.
Mais faut pas rire, oh là là.
Mais j'essaye d'être gentil.
Courage. Il va en faire d'autres après.
Ah, mais... Là, c'est ton nom qui m'a fait rire. Enfin, voilà, j'ai parlé du comics quand même. Moi, je trouve le dessin assez brouillon. Comment dire, ça fait pas comme le Alien Spotlight sur les Andoriens où il y avait des gros problèmes de proportion et où ça faisait un peu débutant, alors qu'en plus le dessinateur n'était pas débutant. Mais moi je trouve qu'il y a un côté brouillon au dessin, quoi. Comme si ça avait été fait vraiment vite par quelqu'un qui avait pas le temps.
Mmh. Ouais, on en avait déjà parlé. C'est le genre de choses qui arrivent surtout dans les années. Quelles années tu as dit la sortie? 90?
Bah, là c'est 2008.
Ah non! Ah mais ouais, oui non mais récemment ouais, également.
C'est plutôt récent et en fait c'est ouais ça fait un peu rétro d'ailleurs par certains moments mais ça c'est pas mal.
Que le style du dessin fait vieux. Enfin quand j'ai jeté un œil dessus au début je pensais que c'était un truc qui était plus vieux que ça.
Je suis vraiment désolé. Rappelle-moi le dessinateur.
John Byrne.
Ah, je croyais que c'était lui au scénario. Oui, alors John Byrne a un dessin vraiment très rétro. Ben, j'en avais parlé ouais, de Frontier Doctor. C'est un dessin façon années 70-80.
Ouais, bah c'est ça. Ouais.
Moi, j'aime beaucoup.
Mais du coup, tu t'es pas trompé en croyant qu'il était au scénario, parce qu'il a fait les deux.
Alors tu vois.
Et le dessin.
C'est là qu'on voit mes capacités d'écoute. Oui, en fait.
Alors, donc globalement, c'est des histoires d'espionnage à la sauce science-fiction. Mais après, les on va dire les deux seuls éléments de science-fiction, globalement, c'est justement son appareil, là, le cerveau, la téléportation. Et c'est à peu près tout. Enfin, si, il y a son ordinateur très très puissant qui peut analyser beaucoup de choses, qui a des capteurs un peu partout sur Terre. Mais sinon, c'est du truc d'espionnage.
Alors, il y a une première découverte.
Le cerveau, c'est pas le truc avec lequel il flashouille à un moment au début, comme dans Men in Black.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est en fait, il peut hypnotiser les gens avec instantanément. Et après, ils ont Kryvar à la suggestion de Jesse qui leur fait faire pas mal de choses dans l'épisode de Star Trek.
Attends, juste un instant. Je suis désolé. Dragor, je sais plus ce que tu disais. Je suis désolé. Tu disais que au niveau du scénario. Du premier, ouais.
J'allais parler du premier numéro. Le premier numéro, c'est une histoire d'espionnage. Ce qui est le principe de base, qui aurait été je pense, l'épisode classique de la série, quoi. En gros, c'est des gens qui veulent saboter une installation d'essai nucléaire, un peu comme dans l'épisode, en fait. Le deuxième, c'est pas mal. C'est ils font un, ils reprennent l'épisode de la saison 1 de la série originale, Tomorrow is Yesterday, mais où on apprend en fait dans ce comics que Gary Seven et sa, et j'ai oublié son nom,
Maya l'abeille.
Oui, alors Maya, non, c'est pas Maya, du coup, c'est Isis. Et Roberta Lincoln, en fait, oui, j'en ai pas parlé, mais Roberta Lincoln, c'était la secrétaire de deux agents au service des mêmes extraterrestres que Gary Seven, qui avait été engagé par eux pour noter leur rapport, apparemment. Enfin, on sait pas trop exactement pourquoi elle avait été engagée, mais... Et en fait, dans l'épisode, Gary Seven va enquêter sur la disparition de ces deux agents. Et il la rencontre, et elle se rencontre qui... Enfin, lui, par maladresse, en fait, il lui révèle qui il est, plus ou moins. Puis elle déduit le reste. Et finalement, il va la garder à ses côtés dans le comics pour ses missions. Elle va l'accompagner. Alors, c'est un peu chiant, d'ailleurs, parce que elle sert à rien. Enfin, elle sert vraiment à décorer, quoi. C'est assez dommage. Enfin, en 2008, c'est assez dommage que... de mettre un perso féminin qui sert juste à décorer à côté du héros, quoi. Mais bon, bref. Voilà, donc avec elle et Isis. Donc, je vais y retourner. Le deuxième numéro, donc, on apprend que justement, bah, ce trio sera intervenu dans les événements de l'épisode Tomorrow Is Yesterday de la série originale. Donc, ils voient l'Enterprise arriver, ils le reconnaissent puisque ils ont déjà vu l'Enterprise, mais plus tard. Je suis en train de m'embrouiller dans l'explication. En fait, l'Enterprise dans Tomorrow Is Yesterday est revenu plus tard dans le passé qu'au moment où ils avaient rencontré Gary Seven en partant plus tôt dans le futur.
Donc, en fait, les membres de l'Enterprise connaissent Gary Seven, mais Gary Seven ne les reconnaît pas encore.
Non, c'est le contraire.
Ah merde.
Voilà. Mais sans, en fait, ils arrivent à ne pas se croiser et Gary Seven les aide quand ils infiltrent la base pour essayer de récupérer des bandes. Enfin voilà, c'est assez marrant. Ça s'imbrique, ça imbrique les deux, cet épisode avec une histoire avec Gary Seven. C'est plutôt sympa. Le troisième, c'est encore une histoire d'espionnage. Le quatrième, c'est des gens qui veulent créer une armée de clones, en fait. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que à la fois dans l'épisode original et dans les trois comics, les trois premiers numéros du comics, il y a plein d'indices qui indiquent une technologie qui devrait pas être là. C'est-à-dire qu'il est trop en avance par rapport à la Terre de cette époque. Et c'est jamais expliqué, même dans la série originale, on ne sait pas pourquoi, il cherche pas... Il fait sa mission dans l'épisode, et puis c'est terminé, même s'il a trouvé un panneau de contrôle de trucs qui n'étaient pas normal. C'est une réminiscence de justement du projet de série, où il devait combattre des extraterrestres qui essayaient d'influencer la Terre dans leur sens. Donc dans My Name is Legion, c'est là où c'est le plus flagrant, parce qu'il y a des gens qui créent une armée de clones dans les années 60, et la technologie n'était pas du tout suffisante pour ça. Et dans le quatrième numéro, c'est enfin expliqué rencontre la faction extraterrestre contre laquelle combat Gary Seven et on apprend que c'est eux qui ont fait toutes ces interventions. Et du coup, on rencontre aussi les employeurs de Gary Seven qui sont de la même espèce, mais qui sont une faction opposée qui essaie de les empêcher d'altérer le développement des autres civilisations. Donc c'est plutôt pas mal de garder ça pour le quatrième numéro. Ça laisse monter un peu des mystères qui sont expliqués ensuite. Et le cinquième, c'est de nouveau une histoire d'espionnage basique. C'est des toujours avec un soupçon d'intervention extraterrestre, mais maintenant on sait de qui ça vient. Le bloc communiste qui clone le président Nixon pour essayer de le remplacer par un. Enfin, ils le clonent pas, non, ils altèrent chirurgicalement quelqu'un pour avoir l'apparence du président Nixon et prendre sa place. Et donc ils empêchent ça d'arriver, voilà. C'est globalement les histoires sont pas, enfin moi j'ai pas trouvé ça foufou, hein. C'est sympa de se dire que bon, ça donne une idée de ce qu'aurait pu devenir la série, mais ouais ça
Ouais,
reste.
ça reste.
Alors, John Byrne est plutôt connu pour sa force de super-héroïque, enfin ses écrits super-héroïques. Donc, il est peut-être pas très doué pour l'espionnage. Mais par contre, l'idée de cette série, si Alex Kurtzman tombe là-dessus, il va nous en pondre une, c'est certain. Enfin, je trouve l'idée super bonne de faire un genre de spin-off qui se passerait dans notre époque. Ça serait chouette. Enfin, je trouve ça
Ouais,
cool.
c'était l'idée. Ouais, alors, il y a des fans qui ont créé un site web qui s'appelle Achievement Earth, justement, point CA, si les gens veulent chercher, où ils mettent les
Oui, mettre les
documents, tous les
documents.
documents écrits par Gene Roddenberry à propos de cette série, qu'on peut consulter du coup pour les gens que ça intéresse. Il parle aussi des autres séries que voulait lancer Gene Roddenberry au début des années 70. Étant donné que la série originale était terminée, il a lancé plein d'idées de séries. Il y avait Genesis 2, The Quaestor Tapes, Spectre, Apocryphal Book of Tobit. Je connais que les noms parce que je me suis pas renseigné plus avant. Mais sur ce site, on peut trouver aussi des infos sur ces séries qui ne sont restées qu'à l'état de projet en fait, qui n'ont jamais été développées. Et c'était voilà entre la fin de la série originale et le début du développement de Star Trek Phase 2, qui était un projet d'une nouvelle série Star Trek et qui finalement a été recyclé pour faire Star Trek The Motion Picture. Donc voilà, si les gens s'intéressent, ce site est plutôt sympa sur le sujet.
Ok. Et donc tu disais que tu as un avis mitigé bien.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas passionnant, mais ça fait passer un moment sympa. Si tu arrives à passer outre que finalement il n'y a que Gary Seven enfin qui fait vraiment des choses dedans et que les personnages. Enfin, encore, Isis fait quand même pas mal de trucs, mais l'autre, sa secrétaire, on se demande pourquoi il l'emmène avec lui en fait, parce que je sais pas.
Ouais. Moi j'ai essayé de lire et j'ai pas pu, ça m'a saoulé qu'il la traîne. Et puis en plus, enfin, je trouve qu'il a un ton super paternaliste quand il lui parle, à toujours lui expliquer des trucs.
Oui.
Elle sert un peu à expliquer les choses parce qu'elle pose toujours des questions. Ah, mais pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Et du coup, c'est un peu, enfin, c'est un
Oui,
peu
c'est
chiant.
le personnage fonction de naïf qui sert d'excuse à ce qui. Ouais, c'est ça, ouais.
Genre, ah, c'est quoi ce truc? Et puis je vais utiliser le machin. Enfin bref, c'est voilà.
Il me semble que je me souviens plus très bien de l'épisode, mais Gary Seven, c'est un connard. Non?
Je
J'ai
sais pas.
ce mauvais souvenir de lui, j'ai le visuel d'un connard. Et d'ailleurs,
Ben, en fait,
dans un comic
au début
book,
de l'épisode, il faut dire que on sait pas trop si. Au début de l'épisode, on ne sait pas trop si c'est quelqu'un de On sait pas si c'est un méchant ou un gentil, quoi. J'aime pas utiliser ces mots-là, mais
Oui,
pour
un
dire
pro ou
simplement,
un
voilà. On sait
antagoniste.
pas s'ils veulent bien de la Terre ou si, s'il lui veut du mal. Et tout le long de l'épisode, le suspense reste, en fait. Parce qu'un des, un des, le climax de l'épisode, c'est justement, il y a un missile nucléaire qui arrive, qui est en train de tomber sur Terre et qui va déclencher l'Holocauste, la Troisième Guerre mondiale nucléaire, machin. Et c'est l'ordinateur qui est de Gary Seven qui peut l'arrêter. Mais Spock n'arrive pas à le faire assez rapidement, parce qu'il le temps qu'il comprenne le fonctionnement de l'ordinateur. Et Gary Seven, lui, il est tenu en joue par Kirk, qui est menacé avec un phaser. Enfin, qui le menace avec un phaser, pardon. Et qui dit, mais moi, je peux le faire, je peux le détourner. Et en fait, ils ne savent pas s'il va. Il essaye de dire ça pour s'assurer qu'il va bien tomber sur Terre et faire tout exploser, ou s'il veut vraiment l'empêcher. Tout le long de l'épisode, il y a cette ambiguïté qui est maintenue, et je pense que c'est pour ça que tu t'en souviens comme un connard, parce que ça aurait pu être un connard, en fait. Et voilà, et c'est le choix de Kirk de dire, bon, bah allez, on le voit hésiter, on sent la tension, et puis finalement il dit, bon, allez, fais-le, et puis il arrête le missile. Et la Terre et son futur sont sauvés.
Mais Gary Seven revient aussi dans la série, je crois que c'est dans la série de 2009 en comic book. Alors, nous sommes quelques jours après l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. juste, j'ai retrouvé l'information. Gary Seven apparaît dans McCoy Frontier Doctor, également de John Byrne, dont j'avais parlé dans la rubrique, dans l'émission en VF. Et c'est marrant parce qu'en fait, il apparaît dans un épisode où McCoy a affaire à des clones. Et voilà, donc il y a ce petit, à nouveau ce petit clin d'œil. Et voilà, il fait plus qu'une apparition d'ailleurs, il est vraiment central à un épisode entier. Voilà, je me renseigne un peu après avoir fait les émissions. On reste dans la ligne directrice de Star Trek pour les nuls, c'est-à-dire que je ne prépare rien. Et c'est après que je m'en inquiète. Bravo Rémi, bravo. Bref, est-ce que tu avais d'autres choses à dire là-dessus, Dragor?
Non, c'est bon, je pense que j'ai tout dit.
Ok. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Pauline, est-ce que tu veux y aller ou est-ce que j'y vais?
Ben, je veux bien, ouais.
Allez, nous t'écoutons.
Alors, du coup, moi, j'ai choisi un comic de IDW aussi, qui fait partie de la série des Captain's Log. Une série de quatre comics qui se centrent sur un capitaine de vaisseau. Donc il y a celui avec Sulu à bord de l'Excelsior, il y a Harriman qui est capitaine de l'Enterprise B quand Kirk se disparaît au début de Star Trek Génération, Captain Pike après l'épisode sur Talos, et Captain Jellicoe, qui est le capitaine qui a remplacé Picard dans l'épisode où il se fait capturer par les Cardassiens et où on voit, enfin, quand il est capitaine à bord de l'USS Kero. Et donc, du coup, moi, j'ai choisi celui sur Pike que j'avais lu il y a assez longtemps et que, du coup, là, j'ai redécouvert un peu. Au niveau des gens qui pilotent le truc, à l'écriture, j'ai vu qu'il y avait Stuart Moore qui a fait l'épisode des Tribules d'Alien Spotlight, qui a pas mal fait de DC Marvel entre 2005 et les années 2010. Enfin, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux de particulier. Si, je crois qu'il a fait. Alors, je vais peut-être dire une bêtise. C'est peut-être lui qui a fait une novélisation de Civil War. Au lettrage, il y a Robbie Robbins, ben, le même que pour le comic de Dragor.
Ouais,
Euh,
c'est un
il
peu
a,
toujours les mêmes.
a bossé sur pas mal de choses. J'ai vu qu'il avait bossé sur des comics du Buffyverse aussi et de Transformers. Et le reste du dessin, c'est J.K. Woodward, qui a participé à l'épisode Klingon d'Alien Spotlight, au crossover avec Doctor Who, ou à un crossover avec Doctor Who, parce que je pense qu'il y en a peut-être eu plusieurs, et un crossover avec Green Lantern. Entre Star Trek, oui, pardon, je n'ai pas précisé. Des crossovers entre TNG et Doctor Who, et TNG et Green Lantern.
D'accord. Alors, Green Lantern revient très souvent en crossover avec Star Trek.
Ouais, ben, ça colle
c'est
bien
des univers,
plus,
oui, voilà, exactement, qui collent relativement bien.
Ouais, il a fait aussi une série de comics sur CSI New York, c'est Les Experts New York, j'ai trouvé ça rigolo.
C'est la série dans laquelle il met ses lunettes et il dit ne vous éloignez pas trop de la ville.
C'est à Miami qui met ses lunettes.
Ah.
C'est celui de New York, c'est un autre.
D'accord.
Oui, des séries Les Experts, il y en a une tripotée.
Et notamment une avec notre cher Scott Bakula. Non?
Ah bon?
Il n'y a pas une série des experts avec Scott Bakula?
C'est possible, mais je sais pas les experts.
Je peux demander vite à mon ami le moteur de recherche. Mais
le temps que tu demandes à ton ami le moteur de recherche, moi je voudrais saluer le capitaine John Harriman, joué par l'excellent Alan Ruck, que vous pouvez retrouver dans La folle journée de Ferris Bueller. J'aime beaucoup cet acteur. Et je trouvais dommage son rôle de capitaine dans Star Trek Generations, parce qu'il passe un peu pour un con, le pauvre. Et je suis très content d'entendre qu'il y a un comic centré sur lui, et je vais me renseigner dessus.
Et justement, ça se passe après la disparition de Kirk, et comment il fait un peu face Il y a McCoy qui apparaît dans l'épisode, et j'ai vite survolé, mais c'est grosso modo lui et le poids de l'aide. Et comment le poids de la disparition de Kirk lui pèse un peu dessus. Donc ça a l'air intéressant quand même.
D'accord. Et il revient dans un webfilm de 2009 qui s'appelle Star Trek of Gods and Men. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler?
Oui.
Est-ce que c'est bien?
J'ai pas vu.
Je me suis endormi devant. Mais l'idée, alors c'est, il a été... C'est le premier fanfilm qui a été produit par Tim Russ.
Ah!
Tuvok dans Voyager. Et comme c'est un acteur de Star Trek qui le fait, ben y a plein de guests. On retrouve. Comment il s'appelle? Celui qui joue Tchekov.
Walter Koenig!
Ah, voilà. Non, mais en plus, j'ai pris une photo avec lui, donc je devrais m'en souvenir.
Quand il avait encore des cheveux ou pas?
Non. Non, c'était en 2016.
Moi, j'en ai fait une, mais il avait une casquette. Donc, je ne saurais pas dire s'il avait des cheveux ou pas, vu qu'il avait un chapeau.
Ouais, s'il l'avait, c'était pour cacher le fait qu'il n'avait pas de cheveux. Et il y a Nichelle Nichols aussi qui joue dedans, notamment dans Star Trek of God and Men. Je suis revenu là-dessus. Enfin bref, voilà, plein de guests d'acteurs de Star Trek. Honnêtement, je me souviens pas. Et en plus, je l'ai vu en anglais, sans sous-titres.
Mm-hmm.
Ce qui est aussi une raison pour laquelle j'ai pu m'endormir devant. C'est pas forcément lié à la qualité du fan film en lui-même.
Moi, je trouve ça épuisant en anglais, juste à l'oral, au bout d'un moment.
Et faudra que j'essaye de lui redonner une chance hein, une fois où je suis moins fatigué. C'est la même équipe qui a fait Star Trek Renegades.
D'accord. Dont on parlera peut-être un jour dans les micros de Star Trek pour les nuls. Enfin, du moins, il fait partie des noms qui ont pop lorsque j'ai cherché des sujets d'émission.
Et dernier guest auquel j'avais pas pensé, il y a Grace Lee Whitney qui jouait Janice Rand dans la série originale qui est dedans.
D'accord.
Aussi.
D'accord. Énorme.
Et je vais en citer d'autres en vrac. Il y a Garrett Wong, Ethan Phillips, TJ Hertzer, Cyroc Lofton et Chase Matterson. Donc respectivement Harry Kim, Neelix, Martok, Jake Sisko, Elita, Et j'ai encore oublié Gary Graham, qui faisait l'ambassadeur Soval d'Enterprise.
D'accord.
Voilà, c'est le festival de guests de
Ouais,
Star
et
Trek
puis
dans
de
ce
toutes
fan-film.
les époques possibles et inimaginables. C'est marrant
Ouais.
ça. Pauline, je t'en prie,
Ouais.
reprends.
Alors, mon moteur de recherche a trouvé que Scott Bakula, en fait, joue dans la série NCIS New Orleans et pas CIS, enfin, pas dans les experts.
Il joue dans la concurrence.
Ah!
Je comprends que t'es confondu parce que c'est vrai que le nom américain des experts, on n'a pas l'habitude de l'entendre.
Puis c'est surtout que je
Mais
m'en fous, donc
oui, bah,
je suis
Oh, la
désolé
violence.
si parmi les
Ah non,
auditeurs il y a des fans de ces deux séries ou d'une des deux, mais bon,
on
je
pourra
suis
toujours
vraiment
aimer
pas, c'est vraiment pas mon style
les
de série. À la limite, je préfère regarder True Detective que les experts Miami. Bref, Pauline, je t'en prie,
Oui,
excuse-moi,
du coup,
raconte-nous les aventures de
Captain
Pike.
Pike. Alors, en fait, ça se passe directement après le pilote The Ménagerie. Pike rentre avec l'Enterprise sur Terre pour débriefer ce qui se passe. Sur le chemin à Jupiter, enfin, près de Jupiter, ils sont attaqués par un vaisseau inconnu, assez enfin, agressif. Et pour s'en débarrasser, Pike décide de monter une équipe, de se téléporter dans le vaisseau et d'aller saboter leur moteur. Alors, il embarque deux gars et l'enseigne Colt, celle qui est sa yeoman. D'ailleurs, je trouve ça un peu. Enfin, je comprends pas pourquoi il s'est dit, tiens, je vais prendre ma yeoman pour aller saboter les moteurs d'un vaisseau. Parce qu'elle a l'air super importante pour ça, mais c'est pas sa fonction, quoi. Enfin bon, je pense que c'est pour servir le scénario qu'ils l'ont embarqué là-dedans. Donc, il s'infiltre pendant que la number one continue à occuper le vaisseau pour leur donner du mal, enfin, résister pendant qu'ils sont en train de tout saboter. Ils arrivent à saboter le truc, mais il y a seulement Pike et Colt qui s'en sortent. Pike, du coup, il a un peu de mal parce qu'il y a des gens qui sont morts. Déjà qu'au début de l'épisode, on voyait qu'il avait un peu de mal aussi parce que il a laissé Vina, l'humaine qui était avec sur Talos. Et on les retrouve 12 ans plus tard, où Pike retrouve Colt qui est devenu capitaine d'un vaisseau école qui s'appelle l'Exeter, qui doivent emmener faire un petit exercice de routine. Et Pike, lui, est devenu contre-amiral.
Et a pris le poste de commandement de l'USS Discovery. Non, c'est 10 ans plus tard à peu près, c'est pas 12 ans. Non, c'est moins de 10 ans d'ailleurs, c'est 2, 3 ans. Je dis des grosses bêtises, désolé.
Donc, pendant leur exercice, arrivés vers Jupiter, ils se font réattaquer par un vaisseau, cette fois-ci qu'ils reconnaissent. Ils savent que c'est un vaisseau halogien. Et le vaisseau tire sur Jupiter. Ils ne comprennent pas trop pourquoi. Bah, apparemment, c'est parce que Jupiter est un soleil manqué et ce serait pour le réanimer. Et donc, cette fois, ils ont plus de mal parce que le vaisseau, c'est un vieux vaisseau, c'est un vaisseau école, quoi. Il est un peu vieux et puis pas très efficace. Et ils arrivent à le détruire parce qu'ils se souvenaient de où étaient les moteurs. Mais cette fois-ci en visant directement, enfin, en tirant dessus directement. Sauf qu'il y a un accident dans la salle des machines et il y a une vingtaine de cadets qui est coincé et Pike va les sauver et se sacrifie pour les sauver et c'est comme ça qu'il est blessé tel qu'on le voit dans l'épisode The Ménagerie.
Ah, ça c'est super.
Ah, d'accord.
Voilà. En fait, c'est ce que j'aime bien dans ce comics. C'est que ça fait le lien entre la fin de. Puis là, pour le coup, c'est vraiment direct. Entre la fin du pilote The Cage, où il quitte Talos 4, et le moment où, on va dire, à un mois, enfin, quelques mois, un an près, où on le voit dans The Ménagerie. Quand Kirk et Spock vont sur la station et qu'on le découvre dans sa chaise. Dans son espèce de chaise fermée avec le visage tout brûlé. Et c'est plutôt bien fait. plutôt court, mais c'est deux petits événements comme ça. Il s'est passé 12 ans entre les deux, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on n'a pas forcément besoin de le savoir. C'est plutôt cohérent, parce que moi j'ai re-regardé The Cage et le début de The Ménagerie. Et en fait, au début de The Ménagerie, le Commodore Mendez explique à Kirk ce qui se passe. Pourquoi, comment Pike s'est retrouvé comme ça, et il lui dit qu'au cours d'une ronde d'inspection d'un vaisseau de classe, enfin d'un vaisseau école de classe, un déflecteur a cédé et Pike a tiré les, a sauvé les cadets du truc, et en gros s'est sacrifié pour les sauver et a été soumis aux radiations. C'est presque ce qui se passe dans le comic. C'est pas un déflecteur qui saute, là c'est un champ de confinement de la salle des machines, mais enfin, pour le coup, c'est du petit...
Ouais, c'est du détail.
Détail, quoi. Donc, moi, j'aime bien le genre de truc. Enfin, je pense qu'on le verra plus tard. Enfin, mais j'aime bien les trucs qui racontent un peu les petits événements qu'on entend parler à droite à gauche. C'est pour ça qu'il y a deux de mes films préférés racontent un peu les dessous de deux événements dont on entend régulièrement parler dans la série Star Trek.
Mais là, tu nous en dis trop ou pas assez. Dis-nous, c'est quoi tes films préférés?
Non, mais mes films préférés, c'est The Undiscovery Country, donc celui sur les accords de Kitomer, et First Contact, ben, sur le premier contact.
D'accord.
Voilà.
Ok.
C'est un peu un épisode, moi j'appelle ça, c'est un épisode de rédemption, parce que. Pike est assez bouleversé, chamboulé par le fait d'avoir abandonné Vina sur Talos 4, sur le fait d'avoir perdu dans la première partie du comics deux hommes qui sont morts pour mener à bien la mission, pour contrer le vaisseau qui les attaquait. Et on voit des petits moments où ça le travaille. Où il regrette, où il demande à quoi ça sert tout ça, pourquoi lui doit sacrifier ses hommes pour mener à bien ses missions. Et grosso modo, et en fait, il a l'occasion de se racheter à la fin, quand il va sauver les cadets, parce que à la fin, on apprend qu'en fait, à part Pike, personne n'a été blessé, personne n'est mort, et que tout le monde s'en est sorti. Et du coup, Pike a racheté sa faute.
Ça, c'est incroyable. Depuis ce pilote malheureux dans lequel il était tout dépressif, les scénaristes se sont pris un malin plaisir à faire souffrir Pike, mais en permanence. C'est incroyable. Même dans la KTL, il souffre, ce con. On va voir ce qui va se passer dans Discovery, mais je sais pas ce qui se passe. Même dans les fanfictions, je suis sûr, Pike en prend plein la figure, le pauvre.
Ouais, je pense que c'est la logique d'extrapoler le personnage à partir de ce qu'on sait de lui dans The Cage.
Mm-hmm.
Où, dès le début de l'épisode, c'est quand même quelqu'un d'assez torturé qui souffre beaucoup de ces hommes qui disparaissent, de ces membres d'équipage, pardon, qui meurent ou qui le met en danger, quoi.
Il n'y en a pas. Dans The Cage, ces membres d'équipage ne disparaissent pas. C'est lui qui est enlevé par les Talosiens.
Oui, mais
non,
au début,
avant,
il est un peu...
Avant ça, quand il picole avec son médecin, là...
Ah oui, quand il...
il est pas à l'aise avec son rôle de capitaine, en fait. Et je pense que
ça, ils ont bien bien appuyé là-dessus. Quelques petites punchlines, qui sont en français, donc je sais pas ce que ça donne en anglais, mais vivre ou mourir, à quoi ça sert, pourquoi faut toujours qu'il y ait des morts.
Vivre ou mourir, pourquoi choisir.
Là, c'est ça, mais c'est l'extrapolation logique de sa typo. Si tu décides pas de le faire évoluer, t'en restes là.
Alors, il y a un autre truc qu'ils ont extrêmement extrapolé dans le comics et qui m'a grave saoulé, du coup. Enfin, déjà, à la base, quand j'ai revu The Cage, ça m'a un peu saoulé l'espèce de relation, l'espèce de triangle, voire quatuor amoureux entre Pike et ses trois nénettes qui sont plus ou moins amoureuses de lui. Parce que dans The Cage, les Talossiens expliquent quand ils ramènent. Au début, ils veulent la coupler avec Vina qui est sur la planète. Et après, quand ils voient que bah, il a pas l'air, même s'il a l'air de la trouver attirante, il veut pas parce que bah, voilà, ça se fait pas. C'est quand même un gars bien, Pike. Ils ramènent les deux seules femmes du vaisseau qu'on voit dans l'épisode, à savoir. La number one et l'enseigne Colt qui est sa yeoman et les Talosiens expliquent un peu leurs qualités et leurs défauts avec l'enseigne Colt qui est jeune qui fera des enfants forts et puis en plus qui l'aime un petit peu mais elle le croyait accessible mais en fait pas trop et même la number one qui est un peu plus âgée mais très intelligente qui fait genre qu'elle n'a pas de sentiments, mais en fait, elle en a un peu, et puis elle n'est pas très indifférente à son capitaine. Enfin, moi, ça m'a saoulé. Parce que ça fait genre, ça y est, enfin, pareil que c'est tombeur de chez dame. Enfin, ouais, non, puis surtout, genre, enfin, tous les personnages féminins qu'on voit dans l'épisode sont plus ou moins secrètement amoureuses de Pike. Comme par hasard, quoi. Et du coup, dans le comics, eh ben, ils ont. Renforcer ce truc-là notamment avec l'enseigne Colt qui voit, il y a une petite réflexion où elle dit qu'elle voit la number one comme un peu sa rivale quand ils se revoient 12 ans plus tard on apprend qu'elle s'est mariée, qu'elle a fait sa vie mais elle dit toujours que tu vois qu'elle est plus ou moins, qu'elle regrette plus ou moins de ne pas être sortie avec Pike et le pompon c'est à la fin, elle lui roule il est dans sa chaise. Il peut juste répondre en faisant une lumière pour oui, deux lumières pour non. Et quand elle lui explique que tout le monde a été sauvé, que c'est grâce à lui, que ça valait le coup, pouf, elle lui roule une pelle comme ça, sans rien lui demander.
Mais il peut bouger la langue.
Je sais.
Non, non, c'est une question.
Alors, je crois pas parce qu'en plus, le fauteuil, il le bouge grâce à ses ondes cérébrales. Enfin, c'est surtout le.
Il date de quand, le comics?
2010. Ils auraient pu s'en passer. Franchement, ils auraient pu garder la relation enseigne-capitaine, garder le côté oui, bah, l'admirait quand elle était sur l'Enterprise, mais bon, c'était ses débuts, quoi. Donc, ben, ça peut arriver. Enfin, qu'il y ait un lien on va dire, un lien d'amitié, quoi, mais. Vouloir forcément tout ramener à la romance, ça m'a saoulé. Puis Pike, qui est totalement, on ne sait pas ce qu'il pense. Il y a juste elle qui est après, qui lui dit, et puis lui, c'est limite, il la capte pas, quoi. Alors du coup, j'ai trouvé ça chiant. Ça fait forcer, on met ça là parce que avec une romance, ça va faire. Je sais pas, genre ça va attirer plus un public plus large ou autre, ou genre faut qu'on cause la case de la romance dans le comics pour en parler un peu, mais enfin voilà. Puis en plus, Colt et Pike, comme on en parlait au début de l'émission, enfin, ils ont bien 15-20 ans de différence d'âge, et du coup, moi je trouve ça un peu malsain.
Après, bon, ouais, oui.
Bah,
ça dépend de l'ordre de la relation, s'il y a un côté paternaliste ou pas.
Non, c'est surtout le fait est que on montre toujours des hommes mûrs ayant soit des relations ou attirant des femmes jeunes, comme si ça arrivait tout le temps, et alors que non. Et quand on montre l'inverse, c'est tout de suite plus négatif. Et moi, ça me saoule, cette espèce de normalisation de la grande différence, la différence d'âge, comme si c'est normal. Enfin, les femmes vieillissent, les hommes mûrissent, quoi. Et puis du coup, eux peuvent aller pêcher plus jeunes et plus frais. Mais sinon, j'ai bien aimé, hein. Mais
non, mais je comprends tout à fait ton point de vue.
Ouais. Après, c'est. Je la trouve sympa, mais c'est vrai que je suis souvent assez critique sur ce genre de truc. Ça m'empêche pas d'apprécier, mais ça me saoule un peu des fois. Le dessin, je le trouve enfin, plutôt moyen. J'aime pas trop le style de dessin, en fait. C'est un peu, je sais pas comment dire, c'est un peu passé, palo, j'arrive pas à mettre de mots dessus.
Pardon, est-ce que tu peux juste rappeler l'équipe au dessin?
En fait, c'est une seule personne parce que c'est J.K. Woodward.
Ok, je connais pas, je connais
C'est,
pas.
je sais pas, c'est le, en fait, je pense que c'est le style de dessin auquel j'accroche pas trop. Ça fait un peu, pas aquarelle, mais ça fait un peu. Les couleurs sont très très pastel. Les noirs sont pas noirs. Après, c'est peut-être aussi le scan qui joue. Mais j'ai regardé une version, enfin une version anglaise du comics. J'avais pas l'impression que c'était très différent. Il y a un autre truc relou que j'ai pas aimé, c'est la diversité. En tout et pour tout, il y a que deux personnages féminins dans ce comics, à savoir Number One et Colt. Ça me fait un peu penser à certains romans fleuves noirs que je lis où en fait les gens font une histoire dans Star Trek mais connaissent pas le contexte et du coup parce que même si dans TOS il y a toujours une assez grande diversité de représentation des personnes ça peut un peu pécher sur certains points dans certaines séries mais par exemple, entre hommes et femmes, dans le fond, dans le background, tu vois toujours des hommes, des femmes qui passent. C'est assez diversifié. Et là, pas du tout, quoi. Pas du tout. J'avais vérifié, du coup, dans The Cage, on voit aussi que la number one est Colt. D'ailleurs, il y a Pike qui fait une remarque à la con quand il voit Colt arriver sur la passerelle en disant « J'ai pas l'habitude de voir des femmes sur le pont. » Ce que je trouve, c'est totalement stupide comme remarque, mais
Mais
bon,
surtout pour un
c'est
comic
plus.
book de 2010, quoi.
Ah non, c'est dans
Oui, mais ça,
le.
c'est dans l'épisode.
Ah merde,
Dans
pardon.
The Cage.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Oui. Mais bon, ça fait partie des choses
Ça,
où,
c'est dû à l'époque, hein.
en fait. Oui, non, puis. Après, moi, j'ai vu des trucs plus récents, enfin, ils n'ont pas fait mieux, quoi. C'est un peu la dissonance entre la mentalité de ceux qui écrivent et la mentalité de ce qu'est censé être la fédération au 23e siècle. Il y a un truc qui ne colle pas.
Voilà, sur cette réplique précise, ma petite théorie, c'est que c'est le, comment dire, que c'était un moyen de faire, enfin, de tenter de faire passer la pilule du fait qu'il y ait des femmes sur la passerelle, justement.
Bah oui, d'autant plus que
Tu veux,
T'as la
parce que
number one qui le regarde et puis il lui dit non mais sauve-vous, c'est pas pareil, mais il le dit, c'est genre je vous considère pas comme une femme quoi.
De toute
Ouais.
façon, vous portez un pantalon, vous n'êtes pas une femme.
Oui, bah voilà, mais justement, quand on
Ouais,
sait que
c'est
c'est
ça.
en partie pour ça que, enfin, c'est totalement pour ça d'ailleurs que le pilote a été refusé,
Et parce qu'elle est trop intelligente aussi,
je
la
pense que
number one.
c'était, ouais, c'est trop intelligent,
Mais
c'est pas
bon,
réaliste, ouais.
du
Mais
coup, The Cage 1964, ok. Captain's Log, Pike 2010, non, quoi.
ouais.
Et autant, quand on voit l'Enterprise après Talos, on voit pas. Et quand on voit, enfin, on voit aucune, il n'y a que deux femmes, du coup. Et quand on voit 12 ans après, on voit le vaisseau avec les cadets qui sont dirigés par la capitaine Colt, et c'est pareil. Ils ont rajouté quelques races aliens pour ajouter un peu de diversité. Et c'est tout. Et il n'y a pas non plus de. Enfin, il y a aussi que des personnes blanches en dehors des personnes aliens. Ce que je trouve assez gênant aussi.
Bah, c'est dommage, effectivement, surtout avec ce qu'a fait la série originale en termes de représentation, quoi.
C'est ça. Et du coup, j'ai regardé un peu dans les trois autres sorties des Captain's Log. Avec Sulu et Jellicoe, non. Avec Sulu et Harriman, c'est plutôt bof. Et avec Jellicoe, il y a un peu plus de femmes, notamment la numéro, la, enfin, la numéro 1 de Jellicoe, c'est une numéro 1. Et on voit un peu plus de femmes dans le fond aussi. Je crois qu'il est sorti en dernier. Et c'est pas les mêmes personnes qui ont fait les scénarios. Donc, enfin, c'était peut-être des gens plus ouverts, moins réac. Enfin, voilà. Mais du coup, ouais, je trouve ça qu'ils cherchent, enfin, ils cherchent pas à faire plus. Alors, ils ont casé les deux femmes qui étaient présentes dans l'épisode de The Cage, et puis c'est tout, quoi. Ça, c'est la petite réflexion. Quand on apprend le vaisseau ennemi qui attaque l'Enterprise et après le vaisseau de Colt, on apprend que c'est une espèce alien, les Halogiennes, qu'on revoit pas après, donc on n'entend pas parler après. C'est des espèces de
lumière.
Non, c'est des espèces de, je sais pas comment les décrire, des trucs avec des grandes pattes et plein de, enfin deux grandes pattes, un corps avec plein de pattes, une espèce de tête en forme ovale avec plein de tentacules. Enfin, c'est un truc pas du tout humanoïde.
Des langoustes de l'espace.
Bah, ça fait, ouais, je sais pas.
Ta description me fait penser à ça, en fait.
Ouais, bah, il y a plein de pattes et des tentacules. Et, mais ils se tiennent sur deux jambes. C'est des bipèdes avec des pattes, plein de bras et des tentacules. C'est vrai que ça fait un peu des pattes de crustacés. Enfin, bref. On apprend, lors de la deuxième rencontre, qu'en fait, ils essayent de. Ils partent sur la théorie que Jupiter serait un soleil manqué et que du coup, ils essayent de le réanimer. Ce qui ferait que ça détruirait un peu toutes les planètes alentour. Alors moi, j'ai un peu regardé, en fait, je crois qu'il joue sur le fait que Jupiter a des points, enfin, a des caractéristiques communes avec une étoile, mais ça s'arrête là, quoi. C'est genre, ça doit être la masse, ou il y a un truc comme ça qui fait que ben c'est un peu la même caractéristique que les étoiles, mais c'est pas possible.
Moi, ouais. Ça me fait penser aux Odyssées d'Arthur C. Clarke. Je sais plus dans laquelle c'est. Ça doit être dans 2010 ou dans 3001, j'arrive plus à me souvenir, où justement il y a un des monolithes qui transforme, alors c'est pas Jupiter, c'est Neptune je crois, qui transforme Neptune en soleil. Voilà, bon, ça me fait penser à ça. Je crois que l'idée c'est que Europe se réchauffe et que du coup la vie s'y développe.
Ok.
Voilà qui nous a bien. Pardon, je suis fatigué. Pauline, est-ce que tu as des choses à plus à dire?
Non, pas plus. Voilà, c'est un comics sympa qui fait des liens, enfin qui fait un lien sympa, plutôt cohérent entre deux épisodes de la série Star Trek TOS. Il y a assez vite et voilà.
Ok, et eh bien à moi.
Allez au boulot.
Ce soir sur les ondes de Parlons Trek. Oh, j'ai pas lancé le générique.
De puissance maximale, c'est ça.
Et alors c'est plus puissance maximale, c'est Parlons Trek. Oui voilà. Allez, on en met un maintenant. Non, je décale. On va pas refaire le coup. Non, mais je me débrouillerai, tant pis, je mettrai le générique avant qu'on se mette à parler. Aujourd'hui, ou ce soir, si vous êtes à table, je voudrais vous parler de Star Trek Discovery Succession, qui n'a pas encore été traduit en français, qui ne le sera probablement pas avant longtemps, sauf si vous connaissez un certain site très intéressant. De chez toujours... IDW, donc c'est une mini-série en 4 épisodes, et dans le TPB, donc dans le recueil de ces 4 épisodes, on a rajouté le Star Trek Discovery annual de 2018. Oui, parce que Succession est sortie en 2018, désolé. Donc, on parlera de l'annual après, on va d'abord parler de Succession. Au scénario, nous avons l'équipe habituelle dont je parle dans toutes les émissions actuellement, Mike Johnson et Kirsten Beyer. Et au dessin, nous avons Anrel Hernandez, colorisé par Mark Roberts. Avant toute chose, c'est beau. Putain que c'est beau, c'est magnifique, c'est vraiment... Enfin, Anrel Hernandez, je ne sais plus à quel moment on en a parlé. Je crois qu'on en a parlé 2-3 fois. C'est magnifique. Il est hyper doué. Les mains sont toutes réussies parce que c'est très difficile de dessiner des mains. Les visages sont hyper ressemblants aux personnages. Et la couleur, oh là 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 là, c'est magnifique. Là, je suis sur la dernière page du comic book. C'est oh là là, il y a plein de couleurs. C'est magnifique. Visuellement, c'est une réussite totale. Par contre, au scénario, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Il faut pas lire ça. Hein.
Ah bon, à ce point-là.
Non, c'est
pas... c'est violent.
Non, j'exagère, mais.
Pourtant, tu es toujours à encenser.
Kirsten Beyer, ouais.
Oui.
Et alors, je sais pas ce qu'elle a fait là. Je crois qu'elle a pris des vacances parce que.
Ouais, c'est Mike Johnson qui a fait.
C'est du Mike Johnson. Alors, Succession, ça se passe dans l'univers miroir. Et ça prend la suite directe de la fin de ce qui se passe dans l'univers miroir dans la série live. Je vais pas spoiler, hein, parce que Pauline l'a pas vu, je crois. Et puis, s'il y a des auditoristes qui l'ont pas vu.
J'ai traîné sur Internet, alors.
Yep. Comment ?
Je veux dire,
tu t'es faite. Oui, tu. D'accord.
Je n'ai pas totalement coupé mes réseaux. Sur des groupes de copies un peu quand même, donc
oui.
Voilà.
Oui, c'est vrai. Et donc, voyez, oui, non, mais si vous n'avez pas vu la série, voilà. De toute façon, on s'en fiche. À la fin de ce qui se passe dans l'univers miroir, la Michael Burnham de l'univers miroir revient pour tenter de prendre le pouvoir sur l'Empire. Comment on dit ? Terranien ? Sur l'Empire Terranien.
Je sais pas, en français, je sais pas. En
anglais, c'est, sur le Terran Empire. Et alors bon, déjà de base, j'ai beaucoup de mal avec l'univers miroir, surtout en comic book. On n'en a pas encore parlé, mais on va parler de la série des frères Tipton qui se passe dans l'univers miroir avec TNG. On va en parler un jour ou l'autre, il faut, parce que c'est magnifiquement bien écrit, mais l'univers miroir, c'est tellement casse-gueule.
J'en ai pas entendu parler de celle-là.
Elle est géniale, je te la conseille. J'ai perdu le nom, je te le redirai.
D'accord.
On va en parler, c'est juste qu'en fait, c'est une série... en fait, ce sont des mini-séries coude à coude. Donc il y a eu la première mini-série qui se passe dans l'univers miroir de TNG, la seconde mini-série qui se passe dans l'univers Prime chez TNG, mais l'univers miroir a des influences dessus, et la troisième série qui s'appelle Terra Incognita, dans laquelle c'est un crossover entre les deux équipages. Et du coup, en fait, ils écrivent ça depuis 2-3 ans, je crois. Et vraiment, c'est super bien écrit, mais il prouve une fois de plus que l'univers miroir, il est totalement, mais c'est impossible, il est what the fuck. Dès que quelqu'un tourne le dos à quelqu'un, il se prend un coup de poignard dans le dos. Et ça, Beyer et Johnson, ils et elle l'ont bien compris, parce que c'est un monde de trahison, tout le monde s'entretue en permanence. Et c'en est ridicule, c'est... Et regarde derrière toi, bam, un coup de couteau. Enfin, c'est...
Ouais, au bout d'un moment, on se demande comment l'univers peut prendre un coup. Des humains vivants.
Mais c'est pas possible que les humains aient pu créer des vaisseaux spatiaux. Ils se sont entretués il y a 4000 ans déjà. C'est incroyable.
Mais celui de qui se passe dans l'univers miroir de TNG, c'est pas celui où il y a Picard, on voit Picard super
hyper musclé. Ouais, c'est à mourir de rire. Et c'est génial. Enfin bon. Mais ça, on en parlera, on en parlera. Voilà. Mais donc, dans Discovery Succession, on a vraiment tous les personnages que l'on voit dans la saison 1, dans leur version miroir. C'est-à-dire qu'on a même Harry Mudd, quoi. On a tout le monde qui vient et qui complote pour obtenir le pouvoir parce que apparemment c'est cool d'être maître. Donc t'as une résistance évidemment, t'as les gentils Klingons, les méchants humains, les gentils humains et par contre il y a une énorme place qui est faite à, j'ai perdu son nom, Eriam. Eriam, est-ce que vous voyez qui est Eriam? Eriam, c'est l'espèce de femme cyborg qu'il y a dans Discovery. Alors, dans la saison 1, elle a 3 gros plans sur son visage, mais elle n'a aucune phrase. Et par contre, apparemment, dans la saison 2, elle va être bien mise en avant. Et je trouve ça... Voilà, c'est comme ça, c'est chouette. Et là, en fait, elle a une grosse part d'importance dans la série. Et... Bah pour le coup, en fait, elle a été bien écrite. Et c'est la seule partie qui est bien, parce qu'en fait, Eriam, elle explique que du fait de ne pas être un véritable être humain, parce qu'en fait, c'était une femme avant, mais elle a eu un accident, je sais plus quoi, donc elle a perdu son humanité, et elle est traitée comme un sous-humain. Donc, elle essaye, tant bien que mal, d'obtenir un vaisseau spatial et voilà de l'idée un genre de résistance contre l'Empire terrien et cette partie là est super bien écrite, mais tout le reste du bouquin c'est très dur à écrire, à suivre pardon, les dialogues sont assez clichés et comme je disais c'est nul parce que c'est trahison sur trahison sur trahison sur trahison, tout le monde s'entretue et voilà c'est tout, il se passe rien de plus. Oui. Et donc voilà, vraiment Succession, si vous êtes méga fan de Discovery allez-y, mais si vous n'êtes pas fan plus que ça vous pouvez passer votre chemin, surtout que ça a aucun impact, en fait, ça a aucun intérêt en soi par rapport à la série télé. J'avais parlé dans l'émission précédente de Light of Kalish sur la jeunesse de Tekumva, je peux comprendre qu'on soit pas intéressé, mais ça peut être totalement être pris en compte pour la série live et moi j'avais beaucoup aimé ça et je trouvais que c'était pertinent, mais là nous parler d'un univers miroir je sais pas, à moins qu'ils aient dit, parce que bon il se passe quelque chose à la fin, il y a un gros revirement de situation, mais à moins qu'ils aient dit à Kirsten Beyer et Mike Johnson voilà dans la saison 2 on revient dans l'univers miroir et on voudrait qu'il se passe ça et ça, je vois pas trop l'intérêt. Parce que,
après, peut-être voilà. Pour les gens qui ont adoré l'arc de l'univers miroir de Discovery et qui voudraient prolonger l'expérience. Ouais, non, même pas.
Ouais, probablement. Ouais. Oui. Je sais pas.
Après, ça m'étonne pas tellement. Enfin, je trouve comme l'univers miroir est assez cliché en lui-même, c'est difficile d'en faire quelque chose de bien. Il faut faire attention pour pas tomber dans des trucs. Dans des trucs un peu trop clichés quoi.
Mmh. Je cherche le nom. Il y a Cornwell, une amirale je crois de Starfleet qui a une place importante. Voilà donc clairement je vous déconseille de lire Succession sauf si vraiment comme dit Pauline ça vous hype à fond. Et l'annual, alors les annuals, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un annual, on a chaque année des épisodes hors format, c'est-à-dire un peu plus grands, ça peut être le double, voire le triple en taille et en quantité, qui sortent sur des séries. Donc tous les ans, on a un annual de Spider-Man, un annual de, je sais pas, Superman, les X-Men, etc. etc. Et cette année, Mike Johnson, Kirsten Beyer et Anrel Hernandez ont sorti un annual sur Discovery. Et cet annual revient sur le passé de Stamets avant de rentrer chez Starfleet. Et c'est nul. Je suis dégoûté. Ah non, mais c'est vraiment... Et puis, c'est l'histoire cliché du scientifique qui a une théorie. Alors, on revoit son collègue. Au début de la saison 1 de Discovery, il y a deux épisodes où on voit un ami de Stamets, qui est son collègue avec lequel il a développé la théorie du réseau mycélien. Donc, on en prend un peu plus sur lui. Voilà, mais... En fait, je comprends pas parce que un truc tout bête, mais je sais pas. C'est là que je comprends pas. En fait, je sais pas si ça vient de moi qui ai du mal à comprendre ou si c'est mal écrit tout simplement. Ce mec, tout le long de l'histoire, donc c'est très centré sur Stamets. Donc on a que le point de vue de Stamets. Donc on le voit presque. Enfin, on le voit, mais sans le voir, ce gars-là, son pote. Je vais retrouver son nom, mais je le cherche, je le retrouve pas. Eh bien, Stamets lui reproche de ne pas être assez impliqué dans ses recherches. Parce que tout le temps, il vient voir Stamets en lui disant « Viens, on va manger avec mon épouse pour se détendre un peu, machin, on va faire ceci, on va faire cela. » Et pourtant, à la fin du bouquin, le type explique « Je me suis fait larguer par ma femme parce que je passe pas assez de temps, je passe trop de temps au travail. » Donc en fait, le type, il passe trop de temps au travail, il passe pas assez de temps au travail à la fois. Donc je sais pas, il y a un truc bizarre.
Et c'est une particule quantique, le mec.
Tu sais, c'est le scientifique de Schrödinger qui est là sans être là. Et bref, non mais je sais pas. En plus, on a la rencontre entre Stamets et le docteur Culbert, qui est mon personnage favori de la saison 1 de Discovery. On a leur romance qui se crée. Ça rien. Ah. Même cette romance, elle est pas intéressante en fait, parce que Culbert, il est égal à lui-même et Stamets, il est égal à lui-même. On n'apprend rien, on voit rien, on a juste, voilà, c'est Stamets, on sait qu'il a un caractère de cochon, pendant 25 pages, on nous dit qu'il a un caractère de cochon, et qu'il est têtu, et qu'il est borné, et que quand il a un objectif, il fait tout pour y arriver. Voilà, c'est...
Ouais, d'accord. Ouais, il développe pas du tout les personnages, quoi, alors que ça aurait été l'occasion, justement.
Et puis franchement, c'est des chouettes personnages, Stamets et Culbert, on pouvait faire des super trucs avec eux. Et...
Je sais pas, on n'en sait rien dessus, en fait. Enfin, moi, je trouve que dans la saison 1, ils étaient pas du tout développés, quoi.
Si, Stamets,
je sais pas. Ouais.
Mais là, tu vas voir, dès le premier épisode de la saison 2, Stamets, il prend une ampleur... Enfin, une ampleur, une profondeur magnifique.
Je sais pas, Culbert, on le voit trois fois pendant 30 secondes, et puis après, il meurt.
Wow.
C'est pas grave. Justement, on s'en fout. je veux dire, au moment où il meurt, on n'a aucune empathie pour lui, parce qu'on le connaît même pas. On l'a vu trois fois 30 secondes.
Ouais, mais moi, j'étais triste. Je sais pas, je me suis attaché au personnage et à l'acteur.
C'est frustrant, parce que ça aurait été intéressant de voir leur relation se développer. Mais en fait, non, parce que voilà, c'est bien la peine.
Voilà, après l'histoire, c'est basiquement, voilà, Stamets et son pote qui ont découvert le réseau mycélien et qui veulent chercher de l'argent. Donc ils cherchent des sponsors, quoi, pour développer ça. Ils vont voir Starfleet leur dit c'est pas possible d'être des physiciens qui utilisent des champignons. Attends, il y a un physicien qui se lève, donc ils font une conférence expliquant leur réseau, machin, comment ça fonctionne. Et genre, t'as un officier de Starfleet qui se lève et qui dit « Vraiment, les champignons sont le secret de la matière infinie pour traverser des distances illimitées, hein ?» Et genre, merde, putain, tu fais passer des scientifiques de Starfleet qui sont hyper ouverts d'esprit, qui sont censés justement s'intéresser à ce genre de choses, pour des gros blaireaux, et du coup, voilà. Mais tout ça pour te montrer Stamets qui va à l'encontre de la difficulté et qui charge.
Tu sais à quoi ça me fait penser, ça ?
Je t'écoute.
J'avais lu le comics qui fait le lien entre... qui parle de l'histoire de Nero.
Oui, Countdown to Darkness. Ah, tu me l'enlèves de la bouche.
Ah, il en avait parlé, Dragor. Ouais.
Et c'est pareil, Nero, quand... Alors, il explique aux Romuliens qu'il y a l'étoile là, qui est en train de faire des trucs. Enfin, personne ne l'écoute et enfin, c'est ouais, ça fait passer des gens, alors les Romuliens et les Vulcains pour des gros blaireaux qui écoutent pas. Et je trouve ça pas crédible.
Ouais, c'est une mauvaise astuce scénaristique pour le
Oui, mais
coup.
c'était pas. Après, de toute façon, fallait raccrocher. Donc, mais voilà.
Je crois que Matou appelle ça le syndrome du maverick. Ce cliché du personnage qui est plus ou moins en opposition par rapport aux structures qui l'entourent. C'est un truc qui revient très souvent
En ce moment, ouais.
dans plein de trucs. Oui, beaucoup. Bah, dans les trucs de super-héros, ça revient souvent. Et puis, c'est pas mal présent dans Michael Burnham, dans Discovery, c'est un peu ça. Kirk, dans la KTL, c'est un peu ça aussi. C'est un truc qui est assez à la mode, en fait.
Dans Search
Je sais
for
pas.
Spock aussi.
Oui, bah
Enfin bon,
oui.
on
Non,
l'avait
mais c'est
souligné
vrai.
en disant que c'était pas bien. Voilà, donc si vous êtes un noob de Star Trek, je ne vous invite pas à lire Star Trek Discovery Succession, je l'ai bien assez dit comme ça. Si ce n'est, par contre, si vous êtes fan de dessin, tout simplement, allez-y, parce que putain que c'est beau, quoi. C'est. Oh là là! C'était vraiment un régal pour les yeux. Mais André Hernandez, ça te dit pas un truc, Dragor? On en avait parlé, pourquoi? Tu te souviens pas?
Non, non, je suis désolé.
Eh bien, bon, bah, tant pis. Voilà. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission. Qui a été un petit peu chaotique.
Chaotique.
Désolé pour cette qualité audio, désolé pour notre fatigue. Je fais des petites recherches en même temps sur André Hernandez. Il
On peut
œuvre
dire qu'elle aurait
actuellement
été encore
chez
plus
DC.
chaotique que d'habitude. Parce qu'on a toujours des problèmes techniques, mais là, c'était chaud, quoi.
Une émission, une étoile. Ah ben voilà, si j'en avais parlé dans la deuxième émission de Star Trek pour les nuls spécial comics, dans l'émission dans laquelle j'avais parlé du crossover, voilà, la boucle est bouclée entre Star Trek et Green Lantern, The Spectrum War, et j'avais déjà dit à l'époque que c'était magnifique. Et c'est celui qui avait dessiné Manifest Destiny, dont j'ai parlé il y a deux, trois émissions, je crois, avec le Klingon Albinos.
Ah, d'accord.
Et voilà, le dessin était déjà magnifique à l'époque. Donc voilà, André Hernandez, c'est une valeur sûre, pardon. Gros raciste. Désolé. Donc c'est une valeur sûre. Allez-y si vous aimez. Et Mike Johnson, n'y allez pas, c'est à vomir. Et Kirsten Bayer, on va dire qu'elle était fatiguée, elle devait prendre des antidépressifs
Les
à
parties bien
cause
qui
de
sont
Mike
dedans, c'est
Johnson.
elle qui les a écrites.
Ben, ouais, tu vois, j'ai. Non, mais c'est con, hein, mais. C'est con, mais j'ai tendance à me dire que probablement que c'est elle qui a écrit l'arc de. Enfin, c'est pas un arc, mais tout ce qui se passe avec Eram, son accession au pouvoir. Parce que son accession au pouvoir, pour le coup, elle est beaucoup plus intelligente que celle de. Burnham, elle est assez intelligente, mais elle est pas très intéressante. Mais tous les complots terranais sont pourris. Enfin bref. Bon, j'arrête d'en dire du mal. Voilà. On se retrouve dans 2 semaines. Je sais pas de quoi on va parler. Qu'est-ce qu'on va faire bientôt? Je sais pas. Vous
Il y
avez
a
envie de
Voyage
parler de quoi?
Home.
Ouais, on va parler de Voyage Home. Et puis après, je sais pas. On va faire une entrevue avec Minos de la communauté francophone Star Trek. Ça devrait être ben, pour ce mois-ci, dans 2 semaines d'ailleurs.
D'accord.
Enfin, au moment de la diffusion, pas de l'enregistrement.
Et après, c'est un peu tôt pour en parler, mais il y a le comics crossover entre la série animée Star Trek et la série animée Transformers qui se rapproche de sa fin et donc qui se rapproche de la sortie d'un TPB.
Alors, la sortie TPB, je l'ai précommandée. Déjà, elle était disponible sur Internet. Je crois que c'est pour le mois de mai, c'est loin.
D'accord.
Mais d'ici là,
après,
alors
les quatre numéros sont sortis, il n'y a moins plus que le cinquième. Donc,
voilà, le fameux cinquième dont on a parlé. Alors Star Trek, Transformers, livraison le 12 juin. Ah oui. Ah
oui. Bon.
Ah oui, voilà, donc la série dont je parlais tout à l'heure, Star Trek Next Generation, et voilà, j'ai appuyé Mirror Broken, la première partie, Through the Mirror, la deuxième partie, et le troisième qui sortira au mois de mai, qui va s'appeler Terra Incognita. Et voilà, ça par contre, je vous le conseille, mais on en reparlera dans quelques temps pour la prochaine émission Star Trek Comics, je pense. Comme ça, ça m'évitera d'avoir des dépenses à faire et de chercher trop longtemps un sujet.
Allez.
Voilà. Retrouvez dans les notes de l'émission tous les titres et les équipes créatives. Voilà, je pense que... Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Dragor, un dernier mot ?
Crap là !
Ah oui, d'accord. Mais Pauline, un dernier mot ?
je sais pas. Je sais pas. Bonne soirée.
Ok.
C'est super perturbant quand il vient de faire cap là, on sait plus quoi dire. Après,
Il nous a pété le rythme.
Bah oui, mais... Qu'est-ce que tu veux faire après ça
Oh là là. Allez, on rend l'antenne. Parlons Trek. Au revoir.
Star Trek pour les nuls.
Bonjour à Mais tu parles pas quand je parle.
T'as tout cassé.
J'étais chaud là. Voilà, c'est bon, je boude. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Arrête de parler.
Au pire, coupe nos micros. Ah non, tu peux pas.
Et non, je peux pas avec ça.